Humaine, qui aurait donc imaginé une incarnation? Cette idée était totalement étrangère à l'esprit juif, car le puissant monothéisme que pratiquaient les Hébreux le leur interdisait. De cette première question en découle d'autres. Qui aurait créé le personnage de Jésus tel qu'il apparaît dans l'Évangile? Qui aurait imaginé la notion de faire ensuite de lui un homme exempt de péché, concept tellement élevé que les témoins de son existence, à de rares exceptions près, ne plus que le considérer comme tel. Et pourtant, jamais auparavant n'avait-on vu d'être que le péché n'est atteint, ni même pensé à quoi un tel homme pourrait bien ressembler. Qui fournit à ce Jésus cette puissance surhumaine qui permettait d'accomplir ce que Dieu seul pouvait réaliser? Et cette sagesse incompréhensible coulant de ses lèvres aurait-elle jamais pu jaillir d'un cerveau inférieur comme celui de l'homme? Il est universellement reconnu que la puissance et la sagesse de Jésus n'ont jamais été égalées et encore moins surpassées. Quel est donc le génie audacieux qui fit un jour jaillir l'hypothèse que non seulement il était possible que le péché fût racheté, mais que l'un serait dû, sans aucun doute possible, à la vie que Christ donnerait comme rançon en démontrant cette réalité par sa résurrection d'entre les morts. Tout cela était tellement incroyable tout d'abord aux yeux de ses disciples, et depuis tellement inacceptable à un homme normal, qu'il est difficile d'être amené à croire que ces faits soient sortis un à un dans un ordre parfait et logique du cerveau d'un conteur, d'un fabuliste. Mais il y a plus. Qui a suggéré au monde religieux la doctrine d'une résurrection générale à la fin des temps? Quelque chose de tellement sublime que ni la science ni la philosophie n'ont été capables d'atteindre sans un élément déterminant, la foi. Quiconque se met à raisonner avec impartialité doit percevoir que de cet ensemble de questions et de faits découle autre chose que de simples théories humaines, mais que tout cela ne peut émaner que du divin. Il n'est par conséquent vain de vouloir en parler en termes de légendes, de fables ou de simples mensonges. La Bible le dit bien, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'Éternel n'est ni un tyran qui cherche à oppresser les humains, ni un ecclésiastique déguisé, escroquant qui il peut, ni encore un auteur de nouvelles distrayantes. Le Créateur est un Père, dont l'intérêt le plus cher est de sauver les hommes. Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Il est semblable à ses paroles, le même hier, aujourd'hui et éternellement. La seconde empreinte de vérité du christianisme se remarque dans son adaptation parfaite aux fins auxquelles il devait parvenir. Si nous admettons durant un court instant que le plan de Dieu puisse avoir été le pur produit d'une imagination humaine ou tout simplement forgé par celle-ci, une remarque importante vient aussitôt à l'esprit. Le christianisme pourrait-il dès lors répondre parfaitement aux besoins pour lesquels il aurait été inventé? Si ses buts étaient de tromper les hommes afin de les réduire à l'esclavage ou de les dégrader, alors les escrocs se sont réellement surpassés en finesse, car dès qu'un homme accepte les enseignements du christianisme et est par conséquent dupé, le piège dans lequel il est malheureusement tombé se transforme aussitôt en une vaste bénédiction. Impossible de le garder prisonnier ou de le dégrader. Cet être se trouve au contraire changé, illuminé par une connaissance qui va se transformer en obéissance, purifier son cœur, nettoyer son imagination, rafraîchir sa conscience, renforcer sa volonté et ennoblir toute sa nature. Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Par contre, si le but du christianisme était bien d'atteindre cette transformation radicale, il ne fait aucun doute que rien de tout cela ne procède de l'esprit humain en tant que fiction, mais bien du cœur de l'Éternel comme vérité inaltérable et définitive. Un des traits dominants chez l'homme est son imperfection. Il a inventé et créé des choses splendides, mais malgré tout, peu d'entre elles atteignent la perfection ou sont exemptes de défauts. Il a fallu un travail acharné, lent et effectué par étapes successives pour qu'il arrive à produire quelque chose de presque parfait. Et encore faut-il modifier, améliorer sans cesse. Ce fut le cas pour la machine à imprimer, la lumière électrique, les instruments de musique, les avions, le télégraphe, la machine à vapeur et tant d'autres inventions humaines. En ce qui concerne les créations diverses de l'homme, rien ne sera jamais parfait, car il se trouve toujours quelqu'un pour améliorer ou dépasser ce qui existe déjà. La perfection n'est pas de ce monde. Mais le cas n'est pas du tout le même dès qu'il s'agit des œuvres de Dieu qui, comme lui, sont toutes parfaites. Lorsque l'on examine le christianisme dans ses détails, on s'aperçoit qu'il est parfaitement adapté aux besoins de l'humanité, et cela sans qu'aucune adaptation ou changement ne soit nécessaire. Le salut dont l'homme a un besoin essentiel n'a jamais eu et n'aura jamais besoin d'être modifié ou amélioré. Cela démontre, à notre raison, qu'il s'agit là incontestablement d'une œuvre divine et non humaine. Par conséquent, le christianisme représente bien une suite de faits concrets ne relevant pas de la légende, de la fable ou de la fiction, mais bien d'une vérité incontestable. Nul ne niera que, comme nombre d'autres facteurs de vie, la spiritualité elle-même est remise en question. Le christianisme a fait son temps, disent certains. Il faut l'adapter à notre époque, car il est désuet, arriéré, déphasé, prétendent d'autres. Tels sont les desiderata de ceux qui n'ont précisément, et c'est assez étrange, jamais essayé ce christianisme qu'il décrit tant. Ils croient à des valeurs plus modernes, à une sorte de panacée apportant une solution à tous les problèmes des temps modernes. Ces gens savent-ils seulement ce qu'est l'expression « spiritualité chrétienne », ce qu'elle signifie? Autre chose étrange, le christianisme serait dépassé d'après certains, mais comment se fait-il qu'on n'essaie pas de le remplacer par quelque chose de mieux, ou tout simplement de rendre meilleur cet ensemble de doctrines religieuses qui, jusqu'à présent, est le seul ayant pour unique but de sauver l'homme, de le transformer en un être capable de s'intégrer tout naturellement dans une société heureuse, pure et sincère, où l'amour de Dieu et des autres règne souverainement. Certains efforts de transformation ont bien été faits, il faut le dire. Une théologie dite rationaliste ou libérale a tenté à plusieurs reprises de dépouiller les enseignements du Nouveau Testament de tous ces éléments surnaturels et particulièrement de la double nature de Christ, humaine et divine, en le réduisant aux dimensions d'un homme ordinaire. Il est évident que toute la superstructure du christianisme s'est aussitôt écroulée, ne laissant en place qu'un vide aussi profond qu'incompréhensible. Ce christianisme libéral rencontre très peu de succès dans le monde, car le nouveau Christ est inconcevable dans le contexte d'une raison saine. Et ceci ramène une fois de plus les âmes sincères vers le Jésus de l'Évangile, à la fois homme et Dieu. Christ surnaturel, cristallisation d'une seule et unique vérité. Un examen objectif et détaillé de la volonté de Dieu concernant l'homme démontre d'emblée qu'aucun moyen mieux approprié pour atteindre ses fins n'aurait pu être imaginé. Chacun sait qu'un des buts du christianisme est de rendre à l'humanité en général et à l'individu en particulier les faveurs et la société de son Créateur, ces liens ayant été rompus par le péché dont l'origine est largement indiquée dans la Bible. Les expériences et observations de tous, ainsi que la conscience de chacun, font apparaître l'existence du péché, non comme une vue de l'esprit, mais comme étant un fait indiscutable. Le christianisme se trouve être le remède à la désastreuse situation dans laquelle la race humaine s'est laissée entraîner en acceptant précisément la séduction du péché en général. La Bible n'affirme jamais que le péché n'est en réalité que le fruit de notre imagination, ni qu'il s'agit d'une chose tellement véniale que l'Éternel n'y attache guère d'importance, et encore moins que l'homme peut s'arracher tout seul à ses griffes, par ses propres moyens, bien au contraire. Dieu nous présente tout d'abord le péché dans tout ce qu'il a de dégradant et de fautif. Puis il nous annonce que si nous le désirons, Christ prendra nos fautes sur lui, car il est mort sur la croix pour cela. Il s'agit là d'une véritable grâce, c'est-à-dire une faveur non méritée. Nos péchés ne seront plus imputés. Nous pourrons un jour vivre en présence de notre Créateur. Une seule condition y est subordonnée. Écouter et faire ce qu'il nous dit. Une seconde promesse nous est faite dans le christianisme. De sanctifier l'homme en le rendant libre de l'amour et de la pratique du péché, s'il se conforme sans restriction à l'amour et à la pratique de la vérité et de la justice. Dieu cherche à donner à tout être humain qui veut l'accepter un cœur bien disposé et un esprit juste. Mais comment? En changeant sa nature, en implantant en lui ses saints principes et en le mettant de manière librement consentie sous le gouvernement direct de l'esprit divin, de l'esprit éternel. Tels sont les moyens dont l'efficacité a été prouvée par plus de 19 siècles d'expérience, par lesquels des millions d'âmes humaines sont sorties des ténèbres pour entrer dans la lumière et sont passées de l'esclavage Satan au service du Dieu vivant. D'autres méthodes ont été essayées sans effectuer aucune transformation permanente de la vie et du cœur. Aucune incantation magique, prière vaine et murmurée sans arrêt, cérémonie laborieuse et vide de sens, aucune dure pénitence, législation religieuse, éducation, philanthropie n'ont jamais réussi. Tout cela était vain. Mais la méthode appliquée par l'Évangile, lorsqu'elle est suivie avec honnêteté, n'a jamais failli. Une troisième chose que le christianisme s'engage à faire est de conférer l'immortalité à ceux qui acceptent et obéissent aux enseignements de Jésus. La mort physique n'est alors plus à redouter, car elle est le tremplin qui permettra d'atteindre une autre vie éternelle, celle-là. Leurs corps semés dans la tombe ressusciteront incorruptibles le jour où Jésus reviendra les chercher. Ils seront alors tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le christianisme accomplit tout cela pour ceux qui auront cru, se seront repentis et auront été baptisés pour le pardon de tous leurs péchés passés. Alors commencera pour eux sur terre une nouvelle vie faite d'obéissance à la parole de Dieu, une vie totalement différente de la première, car ils seront passés de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté, de la tristesse à la joie la plus profonde. Quelque chose de plus entier, de plus complet, peut-il être enseigné comme plan de rédemption? Chacune de ces parties n'est-elle pas parfaitement à sa place et propre à ses fins? Enlever au christianisme l'incarnation de Jésus ou la puissance salvatrice de son sang versée sur la croix ou sa résurrection ou la certitude de son retour, il ne restera de lui qu'une autre vide se balançant au gré du vent. Une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Vous pouvez également vous envoyer le texte intégral de cette causerie gratuitement. Écrivez tout simplement à Jacques Marchal, 6, Étienne Falconet, 31-130, Alma. Jacques Marchal, 6, Étienne Falconet, 31-130, Alma. À bientôt, mercredi prochain, 9h. Et que le Seigneur vous bénisse.